Alors, ce qu'on a commencé à voir depuis sa troisième semaine, c'est que Jésus est le même hier. Il était là dans l'Ancien Testament, on a vu qu'il était en arrière-plan, on a vu qu'il arrive dans les Évangiles, puis il révèle le Père, et il révèle qu'il y a un Dieu en trois personnes, et puis ça lui vaut la mort, il est crucifié à cause de ça. Et la croix, c'est le point central de l'histoire de l'humanité, c'est le point central de mon histoire, c'est le point central de ton histoire. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Il a planté un clou, si on peut dire, il a planté une croix, et ça, ça fait la différence dans l'humanité, ça fait la différence dans ma vie, et ça fait la différence dans ta vie aussi. Alors, on a vu que... Alors, ce qu'on a déjà vu, c'est que ce qui s'est passé à la croix, il y a eu un sacrifice, hein, un sacrifice expiatoire. C'est-à-dire que nous qui étions pécheurs, condamnés, tout à coup on est déclaré juste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sacrifice d'expiation. C'est ça qui a fait la différence. On a vu que dans l'Ancien Testament, on offrait un sacrifice, on prenait un agneau qui nous appartenait, on mettait nos mains sur lui, on transférait nos péchés sur l'agneau. L'agneau était immolé, son sang était répandu, et ça indiquait qu'il n'y avait plus de vie dans l'animal et que l'animal avait donné sa vie pour, à ma place, pour expier mes péchés. Bien sûr, ça prédisait la venue de l'agneau de Dieu qui allait enlever les péchés du monde. Alors ça, c'est une chose qui s'est produite à la croix, il y a eu l'expiation de nos péchés. Tout ce que j'ai fait de pas correct, mon frère, ma sœur, toi aussi, tout ce qu'on a dit, fait de pas correct, méritait qu'on soit crucifié. Jésus-Christ, la prochaine chose qu'on a vu, c'est que Jésus-Christ a pris notre place. Il y a eu une substitution. Il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus est devenu péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça? Je suis justice de Dieu. Hein? Je ne suis plus un pécheur. Je suis justice de Dieu parce que Jésus-Christ a pris mon péché. Il a porté lui-même nos péchés. On appelait ça la substitution. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le message de la croix, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime parce que si je prends la place d'un bandit, si je prends la place d'un coupable, si je prends la place d'un condamné à mort, la seule explication, c'est que j'ai un amour qui est sans limite. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus a fait. C'est la preuve que Dieu nous aime. C'est Jésus qui est mort sur la croix à notre place. Il n'y a pas de plus grand amour que ça au monde. Tu as besoin d'amour? Jésus est mort à ta place. Il dit que le Père nous aime comme il aime le Fils et que le Fils nous aime comme il aime le Père. Est-ce qu'on est aimé? Un amour, je pense que si on saisit ça, là, il n'y a aucune tentation qui va tenir le coup. Si je saisis que je suis aimé de Dieu, il n'y a aucune épreuve, il n'y a rien à mon épreuve, il n'y a aucune épreuve qui va m'empêcher de tenir. Il n'y a aucune tentation qui va m'empêcher de tenir ferme dans la foi. Tandis que le contraire aussi est vrai. Si je n'ai pas compris, si je n'ai pas saisi l'amour de Dieu, les tentations vont devenir énormes, les épreuves vont devenir insupportables. Et si je ne comprends pas que Dieu m'aime, je vais lâcher. Alors, on avance. Quel sens a ta vie? C'est une question qu'on devait se poser. Quel sens a la vie? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ça, c'est le sens de la vie d'un enfant de Dieu, de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On a un Jean-Pierre qui a à cœur de donner, d'aller en Afrique, donner à son peuple, aux gens qu'il aime là-bas. Il a à cœur de donner. C'est ça la vie. C'est ça le sens de la vie. Quel est le sens de ta vie? À quoi tu passes ta vie? Est-ce que tu donnes ta vie? On a Mimi, hein, qui le fait bien. Elle donne sa vie. Et il n'y a pas de plus grande joie. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de la donner. On a tous vu ça la dernière fois. Et j'aimerais qu'on prenne une troisième prise de vue de la croix. Un sacrifice expiatoire, une substitution, et le suivant, c'est rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? Il y a deux synonymes, deux mots qui sont employés dans l'original pour décrire la rédemption. La première, c'est une rançon. Jésus-Christ a offert sa vie en rançon pour tous. Le mot qui est là, ça décrit le prix payé pour un prisonnier. Souvent, il y avait des guerres, les gens étaient faits prisonniers, et puis la façon dont ils pouvaient être libérés, c'est qu'on payait, on payait une rançon. Et les gens étaient libérés, ils étaient captifs, les captifs recouvraient la liberté selon une rançon qui a été donnée, moyennant un prix. Alors, nous étions captifs, nous étions prisonniers. Christ, Jésus-Christ a payé la rançon de sa vie pour que je sois libéré, hein? Racheté, libéré. Ça, c'est un mot qui est employé. On était dans une prison. Jésus paye la rançon et on sort de prison. Amen. L'autre mot qui est employé, c'est affranchi, l'affranchissement. On est affranchi, et là on parle d'un esclave qui peut recouvrer la liberté moyennant une somme d'argent. On évalue la valeur de l'esclave selon ses forces, ses capacités et ce qu'il peut faire. Et puis on peut payer un montant et l'esclave est libéré. Il est affranchi. Il n'a plus à obéir à son maître, à un maître qui le torturait, on pourrait dire, qui lui faisait du mal. Et nous, on a été comme affranchis et on a changé de maître. Au lieu d'avoir un maître qui nous fouette, là, qui nous, hein, si on fait pas comme faut, on a un maître qui a fait de nous non pas ses esclaves, mais ses enfants, ses fils et ses filles. Maintenant, on a un esprit d'adoption et non plus un esprit de servitude, parce que Jésus nous a affranchis. On n'est plus sous ce joug-là. Et donc, le portrait qu'on a quand on parle de rédemption, c'est j'étais pécheur, j'étais, ce qui veut dire, prisonnier et esclave. J'étais prisonnier, j'étais esclave, j'étais enchaîné, emprisonné dans une prison. Il y avait un maître qui me dictait quoi faire, auquel je devais obéir. Et Jésus a donné sa vie à la croix, il a payé la rançon, ce qui fait que maintenant, pour moi, je suis libéré, je suis affranchi. C'était quand Jésus était dans sa ville à Capernaum, il est allé en avant, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, entre autres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. La mission de Jésus, entre autres, c'était de nous libérer. Nous étions captifs, nous étions opprimés. Le Seigneur est venu et il nous a libérés. Maintenant, il nous a sauvés de quoi? Bonne question. C'est une chose de dire qu'on est sauvé, libéré, affranchi, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je le vis, ça? Et comment le vivre, ça? C'est tout un exercice. Ça fait 50 ans presque que j'essaye de vivre cette liberté-là. Et on apprend des choses. On apprend des choses, j'aimerais vous les partager ce matin. Comment est-ce qu'on peut vivre affranchi du péché? Hein? On est libéré de quoi selon... C'est beau ça? Ça c'est nous ça. Hein? Est-ce qu'on peut s'identifier à ça? Ça c'est ma vie ça. Je suis comme un oiseau qui s'envole de sa cage, un prisonnier qui sort de sa cage, un esclave qui était enchaîné, les chaînes sont brisées. Maintenant, j'ai une vie nouvelle en Jésus-Christ. J'aimerais savoir un « wow ». Ouais. Il est temps que Jean Beaumolo prêche. Hein? Alors, j'étais... Il y a plusieurs versets qui parlent de ça, mais de quoi j'ai été racheté? De la malédiction de la loi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Il m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il nous a racheté de toute iniquité, afin de nous racheter de toute iniquité. Et le rachat des transgressions commises. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? On peut rajouter aussi, il nous a libérés de la mort et de la puissance de Satan, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Il parle de qui, là? Il parle de nous. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est pour nous, cela. C'est nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'humanité a péché, lorsqu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est produit? Le diable s'est emparé de l'humanité. Qu'est-ce qui se produit lorsque je pêche? Lorsqu'un être humain pêche? Lorsqu'un chrétien pêche? Le diable s'empare de ce chrétien-là. Il a la permission de te mener par le bout du nez. Une fois que tu as mordu à l'hameçon, là, tu as consommé le péché, ce péché-là produit la mort, la maladie, la mort, entraîne la mort, entraîne la malédiction, entraîne la condamnation. Alors, parce que tout être humain a péché, on s'est retrouvé sous la condamnation, sous la malédiction, sous l'emprise, la domination, l'esclavage du diable. Alors, les êtres humains autour de nous sont sous cette emprise. Nous étions sous cette emprise. Et lorsque je pêche, je me remets sous cette emprise-là, cette domination-là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enlevé le péché. Et le diable, il n'y a plus d'emprise. Pas beau? Pas beau? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous sommes lavés, purifiés, libérés de ce péché-là. Alors, de quoi est-ce qu'on a été libérés? La première chose dans ces versets-là, on a été libérés de la condamnation du péché. On a été libérés des conséquences du péché. Et une de ces conséquences-là, c'est la mort. Et l'autre conséquence, c'est la domination, la servitude, l'emprise du diable. On était transporté d'un royaume dans un autre. Hein, il dit qu'on est passé des ténèbres à la lumière. La puissance des ténèbres nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est actuel. C'est ce qui s'est produit lorsqu'un chrétien reçoit le pardon de ses péchés. C'est ce qui se passe. Lorsqu'un chrétien reçoit le pardon de ses péchés, lorsqu'on a accepté le Seigneur, c'était fait, on peut dire, une fois pour toutes. Hein? Qu'est-ce qui s'est produit? Le diable n'a plus de contrôle, n'a plus d'emprise sur nous. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien pêche? Il se remet sous la domination, l'emprise du diable. C'est sûr qu'il y a des limites, hein? Parce qu'on est un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui pêche, c'est bien de valeur, mais il va y goûter. Le diable ne se préoccupera pas du fait que c'est un enfant de Dieu. Il va prendre plaisir à le maltraiter parce qu'il se met lui-même sous la domination. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un enfant de Dieu confesse son péché? Le diable perd son emprise et je peux goûter à la liberté. Libérer, ça veut dire que le péché, hein, j'ai le pouvoir. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus sous la condamnation du péché. Et je ne suis plus sous la domination du péché. OK? Je ne suis plus sous la condamnation. Les conséquences mauvaises, la mort, jusqu'à la mort, la séparation d'avec Dieu, le contrôle de l'ennemi sur nous. Je ne suis plus maintenant sous la domination du péché. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Mon frère, ma sœur, tu n'es plus sous la domination du péché. C'est écrit, il est mort. C'est juste quelques textes qui nous disent ça. Hein? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, on pourrait dire, de péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Et ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. N'allez pas vous replacer. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Hein? Wow! Wow! Il faut relire ces textes-là. Ici. On vit encore dans un monde qui est dominé par le péché. On a encore affaire à la chair qui est excitée. Hein? Ma chair est aussi excitée qu'il y a 40 ans quand j'étais pas chrétien devant la tentation. La chair, elle change pas. On peut pas la convertir. On peut pas la... La seule chose qu'on peut faire, c'est la mettre à mort. Et je vous invite à suivre les forteresses d'un camp d'entraînement là pour comment se battre contre la chair et contre le diable. Si on a vraiment quelque chose dans notre vie là, qu'on veut se débarrasser, il y a moyen. C'est le but de ce message-là, c'est de dire, hey, c'est pas normal qu'on vive sous cette domination-là. On a la liberté en Jésus-Christ. Alors, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, j'ai la capacité maintenant que le péché ne règne pas dans ma vie. J'ai la capacité de ne pas obéir à ses convoitises. j'ai la capacité de ne pas me livrer au péché. Crois-tu ça? Connaissez Aurore, l'enfant martyr? Oh, ça c'est bon. J'ai oublié. Il dit, regardez-vous, c'est important là. Regardez-vous comme des pauvres pécheurs, vaincus, pas capables d'arrêter, c'est plus fort que moi. Non, non. Regardez-vous, considérez-vous, estimez-vous, c'est là que ça part. L'image que j'ai de moi en Jésus-Christ. Regardez-vous, considérez-vous comme mort au péché. Qu'est-ce qu'un film porno peut provoquer chez quelqu'un qui est mort? Comme vivant pour Dieu, considérez-vous, voyez-vous, estimez-vous comme ça, que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. La tentation est là. Mais la tentation n'est pas péché. Et j'ai le pouvoir en Jésus-Christ de dire non à la tentation. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Que vous êtes plus. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. C'est nous, ça. Et on a besoin de revenir à la base. On a besoin de comprendre ce qui s'est passé lorsqu'on a été racheté. On a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être libéré. Être libéré de la condamnation du péché, c'est une chose. Être libéré de la pratique du péché, c'en est une autre. Mais tout ça, c'est accompli. C'est fait. À nous, C'est comme cette, un succès québécois. Aurore, l'enfant martyr. Une mère, c'est sa mère, ou sa belle-mère, ou sa belle-mère, Et puis, elle a pris cet enfant-là, puis elle l'a traité comme, par jalousie, moi. Je me souviens plus du fait que je revois le film. Elle est en train de mettre les mains sur le poil, là, pour la punir de pas avoir fait ce qu'elle avait. Que la bosse. Mais imaginez Jésus qui entre là-dedans, dans cette maison-là, et puis qui met la marabe de côté, là, puis la petite fille sort de là. Sort de là, maintenant t'es ma fille. C'est ce qui nous est arrivé. Nous étions sous ces emprises-là du péché. On a chacun nos faiblesses. Vous les connaissez. Je les connais. Et le Seigneur, il dit, « Hey, Michel, t'es plus... t'es plus sur la domination de cette méchante personne-là. T'es plus sur la domination du diable. Sors de là. Au nom de Jésus-Christ, je sors de là. » Et il y avait l'histoire suivante. Imaginez, Shoichi Yokoi, dans le Pacifique, deux chasseurs de l'île de Guam ont découvert et capturé un soldat de l'armée impériale japonaise. Ça, c'est en 1972. Âgé de 56 ans, le sergent Shoichi Yokoi se terrait dans la jungle depuis la prise de l'île par les Américains en 1944. 27 ans plus tôt, ignorant d'abord que la guerre était finie, puis refusant de se rendre de peur d'être tué, il ne sortait que la nuit pour chasser et récolter fruits et plantes. Une semaine après avoir été retrouvé, il retourne au Japon, en février 72, encore armé de son vieux fusil rouillé. Devenu une personnalité médiatique très recherchée, il rencontra même l'empereur Akihito en 91. Il est décédé en 1997. Pourquoi je montre ça? Vivait dans la peur. dans l'ignorance, dans le mensonge. Ils croyaient un mensonge. Le mensonge, c'est quoi? La guerre n'était pas finie. Les marchands américains allaient mettre la main sur lui. Et il a vécu comme ça pendant 27 ans, dans la jungle, dans une caverne, en mangeant des sauterelles, en mangeant des bébites, en mangeant tout ça. Quelle vie misérable. Mais ce que je peux vous dire, avec l'expérience qu'on a, qu'il y a des chrétiens qui ressemblent à ça. Vie misérable. Ils n'ont pas compris quelque chose. Ils croient un mensonge. Ils croient que ces tentations-là, ils croient que ces faiblesses-là, c'est plus fort qu'eux. Mensonge du diable. Combien qu'il y a de chrétiens encore qui sont enfermés, captifs, prisonniers d'un péché, et ils n'ont pas goûté la liberté. Ils n'ont pas contré leur appétit sexuel ou autre, les excès. Ils ne peuvent pas contrôler leur caractère, ils ont mauvais caractère. Hein? Et on s'habitue à vivre avec ça, puis on prend ça comme normal, il n'y a rien à faire avec ça. C'est comme si on vivait avec un mauvais coloc, un coloc méchant. Puis, on n'aime pas ça, mais c'est plus fort que nous. Hein? Une vie chrétienne sans victoire. Une vie chrétienne où la chair domine. Toute l'énergie gaspillée à se battre contre la chair. Et le pire, c'est de ne pas avoir la victoire. C'est pas long que tu te décourages. C'est pas long que tu dis toute la culpabilité qui s'engendre, toute la mauvaise image de soi. Hein? Regardez-vous comme saint. Regardez-vous comme libéré. Il y a un problème, là, parce que je ne le vis pas. Hein? Et souvent, on va cesser de se battre, on va cesser d'espérer. Et puis, on a juste hâte que ça finisse. Quand on parle de liberté en Jésus-Christ, on parle de quoi? Ce serait le fun, t'acceptes le Seigneur, magique, le péché coule sur toi comme sur, comment on dit ça, comme sur le dos d'un canard. Hein? Ça t'atteint plus. T'es plus, hein? Ça serait bien, mais on serait tellement orgueilleux, hein, qu'on serait plus parlable. On aurait plus de compassion pour ceux, les pécheurs. Okay? Hein? Non, il y a, c'est pas un acte magique que ça prend, c'est un acte de foi. Un acte de foi. La foi dans la vérité va nous libérer. La vérité va vous affranchir. La foi dans la vérité va vous libérer. C'est pas vrai qu'un chrétien peut marcher dans la défaite continuellement sans goûter à la victoire. Et ce que ça prend, c'est un acte de foi. On a une promesse qu'on connaît bien. Hein? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est-tu clair? Hein? Ça, c'est la vérité qui libère. Est-ce que je crois ça? Que le Seigneur ne permet pas que je sois tenté au-delà de mes forces, mais que cette tentation-là, je peux la vaincre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, quoi ça? Le diable t'a fait croire. C'est une question de foi, je dis. Hein? Le diable t'a fait croire que tu n'es pas capable, que c'est impossible, que tu as tout essayé, que c'est plus fort que toi. Ben, mon frère, ma sœur, il t'est fait selon ta foi. Hein? Est-ce que c'est ça la vérité qui a franchi? De croire que c'est plus fort que nous? De croire que cette tentation-là est irrésistible? Non. On croit le mensonge du diable. Le mensonge qui a servi, hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est la vérité. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous libérer. Je vous le dis, Jésus est venu pour te libérer de ces chaînes-là, de ces péchés-là, de ces épreuves-là ou ces péchés-là auxquels tu ne peux pas résister. C'est pas vrai. Mensonge du diable. La prochaine fois, quand tu sors d'ici, là, puis que tu as une tentation, là, écoute ce que je dis là. Hein? C'est non, c'est pas vrai que c'est plus fort que moi. Là, on va être sur le bon chemin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat, mais je dis qu'il y a une victoire, par exemple. C'est comme ça, c'est le péché. Hein? Le péché, c'est comme un beau vin, pareil. Ça paraît très beau, très alléchant, on va satisfaire un besoin. Et il nous promène ça devant le nez, puis nous autres, il n'y a rien là, c'est pas grave, manger une pomme. Il n'y a rien là. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais de manger une pomme? Ou un fruit? Il n'y a rien là. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne. Il y a quelqu'un qui. Une fois que t'as mordu dans l'hameçon, là, ben le diable, comme je disais tantôt, hein, il y a une emprise sur toi, puis il te mène maintenant par le bout du nez. Alors, le premier pas qu'on peut faire ce matin, ou aujourd'hui, ou cette semaine, c'est un acte de foi. Qui est-ce que tu choisis comme maître? C'est qui le boss de ta vie? Ça, c'est la question. À 1 million. C'est qui, mon frère, ma soeur, le boss de ta vie? C'est qui mène ta vie? Et soyons vrais. La vérité nous a franchis. Soyons vrais. S'il y a quelque chose dans ta vie qui n'a pas d'affaire là, tu es habitué peut-être, non. Tu dis, Seigneur, non. Ça n'a pas de place dans ma vie. Ce n'est pas vrai que je dois tolérer ça dans ma vie. Sois vrai. La vérité va t'affranchir. Tu as telle habitude, telle mauvaise habitude, tel excès, tel trait de caractère qui est vraiment que tu luttes avec ça. Aujourd'hui, tu dis, c'est qui le boss? Puis quand va venir la tentation de sauter de colère ou de. Tu te dis, c'est qui le boss? Puis vous m'en donnerez des nouvelles. Si tu fais le bon choix. Non, mon boss, c'est plus la colère, ce n'est plus la vengeance, ce n'est plus l'amertume, ce n'est plus telle tentation. Non. Moi, je choisis Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ. Premier commandement du diable, le plus grand commandement du diable. Vous savoir? La version Michel Houle. Tu feras tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Ça, c'est le diable qui parle. C'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et le second qui lui ressemble, seul tu décideras de ce qui est bien ou mal pour toi. Tu ne laisseras personne te dire quoi faire, ni penser, surtout pas Dieu, et surtout pas l'Église. Tu décideras tout seul de ce qui est bien ou mal pour toi. Tu ne laisseras personne te dire quoi faire, ni penser. Les Québécois, c'est fort. Il n'y a pas personne qui va nous dire, qui va nous faire la morale. On a souffert tellement. Même pas Dieu. Ça, c'est le mensonge du diable. Il faut l'identifier. Hein? On peut l'avancer. Ça, c'est l'esclavage. C'est la définition de l'esclavage. Faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. On pense à la liberté. Non, c'est le contraire. C'est la définition de l'esclavage. La définition de l'égoïsme. L'égoïsme à son comble. L'orgueil à son comble, l'individualisme à son comble, c'est tout le contraire de ce que la société prêche aujourd'hui. Il y a un beau verset qui parle de la liberté qu'on a en Jésus. Ne vous conformez pas aux principes, valeurs, modes et habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence, une mentalité nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Ça, c'est la liberté. Hein? Je veux faire de tout mon cœur ce que Dieu veut. C'est pas une punition de servir le Seigneur. C'est la liberté. Je suis libre, hein? Comme je dis souvent, si j'allais au piano à place des pianistes, là, et puis je commençais à faire du bruit, on viderait la salle, ça serait pas long. Pourquoi? Parce que je connais pas les accords. Et c'est la même chose avec ma vie. Notre vie peut être harmonieuse pour nous-mêmes et surtout pour les gens autour de nous qui vont en bénéficier. Quelqu'un qui sait jouer du piano, de la guitare, un instrument de musique, ça va être doux aux oreilles des autres personnes et ça va vraiment attirer des personnes. Et ça, c'est le secret, c'est notre vie. Hein? La liberté, c'est de faire, choisir de faire ce qui est bien, ce qui est bon, ce que Dieu me demande de faire. À partir de maintenant, mon frère, ma sœur, tu choisis quel est ton maître. OK? Choisis. Ça veut dire dans la pratique, là, tantôt, là. Il va venir des tentations, tu sais, tu vas peut-être avoir, si t'es colérique, tu vas vouloir peut-être te venger ou quoi que ce soit. Tu dis, non. Hein? Je choisis le Seigneur. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux que je fasse dans cette situation-là? Hein? Faire le choix de croire le mensonge du diable, c'est l'esclavage. Choisir de croire la vérité, c'est la liberté qu'on a en Jésus-Christ. Alors, viens à Jésus tel que tu es ce matin. On avait un vieux chant qu'on chantait. Tel que je suis, hein? Je t'invite ce matin d'être vrai. Compte pas de blague au Seigneur sur l'état de ton cœur. Sois juste vrai, puis décide ce matin de servir ton maître. Qui tu choisis de croire? Et applique-le dans chaque pensée, chaque geste, chaque décision que tu vas prendre à partir de maintenant. Dis-moi, je choisis mon maître. J'ai choisi mon maître. Et on a dit, le diable stand. Il va se lasser. Et puis, il va te laisser tranquille pour un bout de temps. Hein? Amen. Alors, faisons cette prière. Seigneur, tu connais, Seigneur Dieu, chacun d'entre nous. Tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu connais les luttes. Tu connais, Seigneur, peut-être des personnes ici qui luttent contre un péché. Ils savent que c'est péché, mais ils le font pareil parce qu'ils sont désemparés, ils sont démunis. Et Seigneur, ils ont cessé de croire dans ta puissance. Ils ont cessé de croire que tu es venu les libérer. Alors, Seigneur, aujourd'hui, maintenant, mon frère, ma sœur, tu dis, Seigneur, je te choisis comme mon maître. Et dans le fond de mon cœur, j'ai le désir d'être débarrassé de cette cochonnerie-là, de cet esclavage-là. Seigneur, c'est là dans le fond de mon cœur. Et je sais que j'ai pas le pouvoir en moi-même. Mais à partir de maintenant, Seigneur, je choisis la vérité qui va m'affranchir. Et j'ai hâte de voir, Seigneur, le fruit dans ma vie. Amène cette chose-là devant le Seigneur. Viens tel que tu es devant le Seigneur ce matin. Avec cette chose-là qui te fait honte, qui te torture. Viens à la lumière. et regarde les ténèbres qui s'éloignent. T'as-tu encore le goût? Là, maintenant? Maintenant qu'on est dans la présence de Dieu, t'as-tu le goût? Cette chose-là? Yark. Alors marche dans ce yark, marche dans cette libération. Oui, Seigneur, tu as fait cette promesse qu'il n'y a aucune tentation qui va nous, aucune épreuve, aucune tentation qui va être plus forte que nous, mais qu'on veut sortir d'ici avec cette assurance qu'on va marcher dans la victoire pour ta plus grande gloire. Amen.